Matière à penser, Frédéric Borns.
Matière à penser, cette semaine dans Matière à penser, les enfants. Les enfants, c'est-à-dire la diversité des enfants et non pas une essence, une identité, quelque chose qu'on saurait à l'avance sur l'enfant en général, mais parler des enfants, est-ce que c'est pour autant être perdu dans un relativisme généralisé? Est-ce qu'il ne faut pas un cadre pour parler des enfants? Quel cadre pour les respecter, pour les rendre heureux cette semaine? Les enfants, aujourd'hui, pour une première rencontre et une première discussion, pour parler des enfants, de leur diversité et aussi des cadres pour rendre l'enfance possible. Je suis très heureux de recevoir Serge Effèze, qui dirige l'unité de thérapie familiale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonsoir Serge Effèze.
Bonsoir Frédéric Borms.
Merci beaucoup d'être là ce soir. Vous avez peut-être été surpris par la manière dont j'ai présenté le thème de la semaine. Je voulais juste insister sur ce pluriel, les enfants. On a l'impression qu'il va de soi, mais en même temps, il y a des gens qui parlent de l'enfant au singulier. Il y en a d'autres qui insistent sur une sorte de singularité absolue, de diversité sans fin. Où est-ce que vous vous situez un peu entre les deux? Est-ce qu'il faut pas un peu des deux, Serge Effèze, pour parler des enfants et de l'enfance?
Oui, tout à fait. Il faut un petit peu des deux parce que il y a, une essentialisation de l'enfant qui est absolument nécessaire pour comprendre ce que c'est que l'enfance.
C'est nécessaire, vous diriez.
Oui, c'est aussi nécessaire. D'accord. Et c'est aussi nécessaire, évidemment, de parler des enfants dans leur diversité, parce que c'est diversité d'appartenance aujourd'hui. Et je parle surtout de ce qui est mon intérêt à moi par rapport à l'enfance, c'est-à-dire sa famille, puisque je suis thérapeute familial. Ça veut dire que je reçois des familles pour des enfants qui sont en difficulté. Et aujourd'hui, les cadres d'appartenance de l'enfant ont beaucoup changé, se sont beaucoup diversifiés par rapport à ce qu'ils étaient autrefois. Il y a 1000 façons de faire famille aujourd'hui, et donc ça crée des biographies d'enfants qui sont très différentes les unes des autres.
Alors justement, j'avais relevé parmi d'autres titres, j'aurais pu citer aussi des titres de livres, j'avais insisté sur cet aspect de thérapie familiale, parce que je vois bien ce lien entre la famille et l'enfant. Mais justement, pour aller tout de suite vers un aspect, s'il y a de la thérapie familiale, c'est aussi que la famille est un cadre qui peut avoir des problèmes, qui peut avoir des pathologies, ou qui peut en engendrer. Et donc, on a l'impression qu'il y a aussi un risque que tout se fragilise. Justement, les enfants, les familles, on va y revenir. Comment construire du singulier, de l'essence, du cadre avec ses pluriels et ses pathologies possibles?
Eh bien, parce que je vois justement les choses un peu à l'inverse. C'est-à-dire, je pense que la famille et les familles sont les lieux le plus adéquats. Ce sont des lieux de compétence pour élever les enfants.
Donc, alors, c'est partez de la famille pour penser l'enfant et non pas l'inverse.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'enfant appartient à cette dynamique familiale, et que on pourrait dire que l'enfant émerge de la famille, mais de la même façon que le père émerge de la famille, la mère émerge de la famille, c'est-à-dire chacun dans sa place, dans son rôle et dans sa fonction, émerge de ce groupe très particulier qu'est le groupe familial. Et mon attention se porte sur les relations, les interactions, c'est-à-dire la façon dont le groupe fabrique les individus, je dirais, davantage que la façon dont les individus constituent le groupe.
Alors la famille fabrique les enfants, fabrique les individus. En même temps, l'un de vos derniers livres, celui qui aussi comprend un chapitre intitulé « Faire des enfants ». Je crois bien que c'est faire des enfants,
oui.
Comme on le dit dans la vie courante. On va peut-être faire des enfants. Ce livre s'intitule « La fabrique de la famille ». Donc au fond, on a une impression de fabrique sans fin, presque en poupée russe. La famille fabrique des enfants. Mais qu'est-ce qui fabrique une famille? Qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce qui fait une famille? Et ce n'est pas exactement la même question.
Oui, alors qu'est-ce qui fabrique une famille? Justement, c'est la société dans laquelle vit cette famille et évolue cette famille, et la reconnaissance que la société va donner à cette famille en tant que famille. Mmh. Et on voit bien que selon les époques, selon les cultures, selon les coutumes, eh bien, on ne se représente pas du tout la famille de la même façon. Par exemple, ce qu'était la famille dans nos sociétés jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, c'était pas très compliqué. C'est une entité à peu près unique. Une entité dans laquelle le mariage, l'accouplement, l'engendrement, l'établissement de la filiation, le fait de situer un enfant dans une généalogie, dans une biographie, tout ça était un petit peu du même ordre, c'est-à-dire c'était condensé autour de la cellule parentale, de cette matrice hétérosexuelle, comme on dirait aujourd'hui, d'un homme et d'une femme qui procréent un enfant. Mmh. Et que tous les éléments étaient conjugués pour que cette famille s'articule autour de la procréation et de la continuation, disons, des lignées. On voit qu'aujourd'hui, la famille, elle s'est beaucoup modifiée par rapport à cela. Mm-hmm. À cette époque, par exemple, un enfant qui naissait hors mariage n'était rien du tout, il était dans les limbes du monde, c'était un pauvre bâtard
sans famille, comme on dit un livre célèbre.
Une femme qui n'était pas mariée, elle aussi, et qui par malheur avait un enfant, on sait bien quel était le sort qui lui était réservé. Donc rien que par rapport à ces données, c'est-à-dire le fait que le mariage ne soit plus consubstantiel, disons, de la famille, qu'on peut faire famille en étant marié, sans être marié, qu'on peut avoir des enfants en étant seul, et dernière grande nouveauté, que on peut se démarier, se recomposer, avoir plusieurs parents, des beaux-parents, etc. Puis que deux hommes et deux femmes peuvent fonder une famille et établir une filiation, on voit bien qu'on est obligé de regarder la famille avec une autre focale.
Mais alors, Serge Hefes, donc vous venez de décrire, disons à l'échelle de 50 ans à peu près, en effet, un modèle de la famille, je pourrais presque dire maximale, c'est-à-dire où toutes les dimensions du familial convergent en principe, ou pas d'ailleurs, avec les problèmes que ça peut créer, ce qu'on pourrait appeler, on le verra, le biologique, le juridique, le sexuel, le parental. À l'inverse, aujourd'hui, tout bouge, mais qu'est-ce qui, pour vous, serait, à l'inverse, alors, le minimal absolu? Qu'est-ce qui, à partir de quoi est-ce qu'il y a famille ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est justement la coexistence d'adultes et d'enfants dans une même unité reconnue juridiquement? Quel est le minimum absolu?
Pour moi, le minimum absolu, c'est que au moins un adulte se positionne pour prendre la responsabilité d'un enfant. Et pour dire, cet enfant est le mien, je le prends en charge, et ce lien est indéfectible, c'est-à-dire que je vais porter cet enfant et je vais l'élever au moins jusqu'à sa majorité.
Donc la famille est le cadre assumé, mais j'imagine aussi reconnu par la société.
Oui.
De ce que vous venez de dire, c'est une relation à la fois parentale, éducative, de soins, où la relation adulte-enfant est fondamentale finalement.
Et asymétrique, c'est-à-dire qu'une famille, c'est la notion de génération. Mmh. Pour qu'il y ait famille, il faut qu'il y ait deux générations. Donc, une génération parentale, une génération d'enfants, quelle que soit la différence d'âge qu'il y a entre ces deux générations, et que donc, il y ait protection de l'enfant de par le fait qu'il y a cette génération différente.
Génération, Serge Hefes, vous venez de dire quelle que soit la différence d'âge, j'imagine quand même que il reste un minimum là aussi pour faire génération, c'est-à-dire que on peut pas dire que quelqu'un de, mettons, 8 ans pourrait être le parent de quelqu'un de 5. Donc génération, c'est une image un peu biologique dans l'étymologie même du mot, et en même temps vous distinguez génération et engendrement, Serge Hefes, c'est-à-dire qu'on peut être différentes générations sans s'être engendré mutuellement.
Absolument, et c'est pour cela que, comme vous le savez, aujourd'hui dans notre code de la famille, eh bien, il y a deux façons de faire famille, et pas beaucoup plus. Article 7, article 8, c'est-à-dire soit la famille par filiation charnelle, soit la famille par filiation adoptive. Et que, aujourd'hui, bien évidemment, avec les biotechnologies de la reproduction, avec les recompositions familiales, avec les différents modes de filiation homosexuelle, etc., on est bien obligé de réinterroger ces deux modes de filiation, parce que ce ne sont plus les seuls.
Alors, on va revenir sur cet usage du mot filiation, qui ajoute une dimension, justement, dont on peut se demander si elle est biologique ou juridique. Et c'est une tension très, très, très importante. Mais avant même d'y venir, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, qui me paraît très fort, le noyau dur, le minimum. Mmh. Si un adulte, donc, est reconnu par la société comme devant s'occuper d'un enfant, même s'il n'y a pas de lien d'engendrement, on peut dire qu'il y a famille. C'est ce lien, finalement,
c'est
de responsabilité.
Lien, disons, de droit et de devoir, tout simplement, d'un adulte vis-à-vis d'un mineur, vis-à-vis d'un enfant.
C'est ça le minimum de la famille. On peut dire à l'inverse, vraiment, avant de revenir aux enfants, puisque c'est le sujet de notre semaine, un couple qui se marierait et qui n'a pas d'enfant, est-ce que c'est une famille sans enfant?
Oui, alors effectivement...
C'est un usage un peu vague.
C'est vrai que je suis un petit peu obnubilé par les questions de filiation, mais vous avez raison, un couple qui n'a pas d'enfant, eh bien c'est aussi une famille, dans la mesure où il descend lui-même d'une famille, ils ont eux-mêmes des parents, ils ont des frères et sœurs, ils ont des neveux, etc.
Ils se prêtent assistance, ils sont aussi responsables les uns des autres.
Tout à fait. Donc, le lien d'alliance, finalement, la famille, c'est soit un lien d'alliance, soit un lien de filiation, soit les deux, on est bien d'accord là-dessus. Mais que, je dirais que toutes les questions se cristallisent aujourd'hui autour, bien évidemment, des questions de filiation.
Avec ce point commun, malgré tout, très intéressant, je pense, de cette responsabilité mutuelle en cas de problème, pour le meilleur ou pour le pire, dans le mariage. Et puis aussi, quand même, ces registres qui se mélangent de la sexualité, du biologique, disons, et du juridique. Dans tous les cas, il y a, dans la notion de famille, pour nous, plusieurs imaginaires, plusieurs registres.
Absolument. Et tous ces registres. Et si vous voulez, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, tous ces registres étaient confondus, n'étaient qu'une seule et même chose, étaient de même nature, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que rejoignaient une vision très naturaliste de la famille, liée, encore une fois, à l'accouplement, à la procréation, à l'engendrement, à la filiation. Tout ça était du même ordre. Et qu'aujourd'hui, il y a une diffraction de tous ces plans qui fait qu'on doit repenser le juridique, parce que le juridique s'appuyait là-dessus, s'appuyait sur l'engendrement charnel.
Mais vous dites, Serge Hefes, qu'on avait un modèle naturaliste. C'est aussi un modèle d'une certaine société, ce modèle naturaliste. Il y a des modèles où la famille inclut les oncles, les tantes, ou l'idée même de famille. Je ne veux pas dire la famille élargie, mais la famille tout court. Oui. L'anthropologie nous montre la diversité du faire famille.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien évidemment, je parlais de la famille dans nos sociétés, nos sociétés judéo-chrétiennes en particulier. Bien évidemment, si vous allez dans l'anthropologie. Alors là, il y a des choses absolument extraordinaires à découvrir sur ce que peut être une famille. Vous allez chez les nains de Chine, par exemple, il n'y a pas de père chez les nains de Chine. Ça n'existe pas. Ils ont inventé bien avant nous le modèle du don de sperme anonyme, puisque les femmes sont élevées avec leurs propres parents, avec leurs frères et sœurs, dans une maison, et que les hommes viennent en cachette la nuit pour ensemencer ces femmes, les engrosser, et les enfants ne savent absolument pas qui est leur père. C'est même tout à fait interdit de leur signifier qui est leur père. Et ça crée des familles qui sont des modèles familiaux tout à fait respectables. Si Lacan avait eu, par exemple, une vision de cette famille, lui, avec son histoire de forclusion du nom du père, ses cheveux se seraient dressés sur la tête. Il leur dit, on va fabriquer que des psychotiques. Oui. Et en fait, ça n'est pas le cas.
C'est une vraie question, d'ailleurs, sur la psychanalyse que vous pratiquez, que vous connaissez bien, Serge Hefes, de savoir si elle peut s'étendre à, si elle est culturelle ou si elle est universelle. Est-ce qu'il peut y avoir un Oedipe africain, comme le disait un livre ancien, ou une psychanalyse dans d'autres cultures? Mais justement, pour prolonger un peu notre discussion sur la famille avant de revenir aux enfants, Serge Hefes, il me semblait que cette variation anthropologique, d'un côté, peut nous ouvrir à d'autres modèles, mais d'un autre côté, certains diront, mais oui, mais ces modèles, ce sont des coutumes bien établies, ce sont des sociétés qui ont des pratiques très anciennes, et nous, ce qui bouge en ce moment dans nos cultures, on passe, disons, je vais résumer, du culturel au juridique. Est-ce que le droit, la loi, peut avoir le même poids symbolique, même pour les enfants précisément, que d'antiques coutumes? On dit parfois, il y avait déjà la GPA dans la Bible, puisque Abraham a confié à une autre le portage de son bébé que sa femme ne pouvait plus porter. On dit, voilà, il n'y avait pas de père dans telle culture chinoise. Mais est-ce que le juridique peut avoir le même poids que le culturel, Serge Hefes?
D'abord, je pense qu'on ne peut pas les dissocier l'un et l'autre, c'est-à-dire que là, ils sont en interaction permanente, et que quand quelque chose se modifie dans la culture, quelque chose doit se modifier dans le juridique pour accompagner ces changements-là. La meilleure preuve, c'est par exemple l'homosexualité qui était soit une tare, soit une maladie, soit même passible de sanctions juridiques.
Encore dans certains pays,
et encore très largement dans certains pays, qui aujourd'hui est une façon de vivre comme une autre protégée, etc., reconnue, et que le fait que deux hommes ou deux femmes puissent établir une filiation, puissent se marier, etc., c'est un changement majeur culturel,
qui vient d'abord
coutumes de nos sociétés.
Oui, donc vous dites, on n'est pas dans la perte des coutumes, mais dans d'autres coutumes.
Absolument.
En fait. On n'est pas dans le néant d'histoire ou de culture.
Les coutumes se transforment, et que les coutumes se transforment parce que la société évolue, que, à mon sens, ce qui a fait le plus évoluer la société aujourd'hui, c'est l'émancipation des femmes. C'est le fait qu'on soit sorti de cette asymétrie relationnelle, conjugale, sexuée entre les hommes et les femmes, et que tout le reste suit. C'est-à-dire que cette égalité entre les hommes et les femmes, cette égalité des sexualités, je dirais cette fluidité du masculin et du féminin, elle permet une visibilité des autres sexualités, de l'homosexualité, et elle permet à tout le reste de bouger. Mais il faut que la loi suive. Et d'ailleurs, c'est les grandes questions qui se posent aujourd'hui, les grandes questions bioéthiques que vous connaissez bien, Frédéric Worms, c'est-à-dire comment est-ce que la loi va accompagner ces transformations.
C'est évidemment un point auquel on va venir. Il y a évidemment, en ce moment, en France, on est à l'automne 2019, il y a une loi de bioéthique politique qui est entrée en discussion déjà sociale, bientôt au parlementaire politique et chez le législateur. Et on va y venir, mais je voudrais encore insister sur le cadre général un instant. Vous venez de dire que l'émancipation des femmes est l'enjeu majeur. Si on le relie à ce que vous disiez avant, c'est en effet très clair. Ça veut dire, au fond, jusqu'ici, pour reconnaître une relation adulte-enfant, il fallait un homme ou un couple homme-femme. Et maintenant, donc, on a l'impression que dans votre minimum général, qui me paraît très très important à préciser, s'il y a une relation entre un adulte, qu'il soit homme ou femme, et un enfant, qui est reconnu par la loi, on a une famille. Une femme, un enfant, ça peut faire famille.
Oui, un homme, un enfant aussi, voilà. Ça peut faire famille et ça existe.
C'est ça la grande nouveauté historique pour vous aussi.
Oui, c'est-à-dire, la grande nouveauté historique, c'est laquelle ? C'est que le mariage n'est plus le pivot de la société. Mmh. C'est ça, je rejoins tout à fait Irène Théry, avec qui je travaille beaucoup et qui parle de démariage. C'est pas simplement que les gens divorcent, mais ça veut dire que le mariage n'est plus le pivot de l'organisation sociale. Tout s'articulait autour du mariage. Mmh. Et à la fois, évidemment, le fait de pouvoir fonder une famille et établir une filiation, mais aussi l'asymétrie fondamentale entre les hommes et les femmes, puisque de par le mariage, le père était dans la puissance paternelle qui lui conférait une autorité non seulement sur ses enfants, mais sur son épouse, qui était une mineure légale par rapport à son mari. Et ça, c'était jusqu'en 1970 quand même. C'est-à-dire, ça date pas d'il y a trois siècles. Donc jusqu'en 1970, l'organisation sociale était verrouillée autour du principe même, de par la loi, de la domination des hommes sur les femmes.
Alors que maintenant, précisément, on peut ouvrir, enfin, en tout cas, la réflexion et le cadre de la famille à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire avant tout le cadre juridique pour permettre, rendre possible, encadrer, soutenir une relation adulte-enfant.
Oui, et soutenir toutes ces nouvelles formes de famille, mais ça va des choses les plus simples, par exemple le statut des beaux-parents, par exemple, dans une famille, un beau-père qui a élevé un enfant depuis sa naissance, qui n'est ni son père juridique ni son père biologique, jusqu'à sa majorité, et qui ne peut même pas lui transmettre son patrimoine s'il le souhaite de par la loi aujourd'hui. Vous voyez, c'est des choses très concrètes du quotidien qui ne prennent absolument pas en compte ce qu'est devenu la dynamique de la famille, sans même parler, bien évidemment, des biotechnologies qui ont changé, des procréations médicalement assistées, etc.
Donc, quand vous parlez de beau-père, par exemple, Serge Éphèse, ça signifie que, par exemple, une relation qui s'établit entre un adulte et un enfant, dans le cadre qui n'est pas encore juridiquement une famille, justement, devrait le devenir. La loi doit reconnaître le fait familial, le faire famille, puisque c'est votre expression d'ailleurs, pour faire des enfants, on y reviendra aussi, faire, fabriquer, qu'est-ce que vous entendez exactement par là, se faire, qui le fait, qu'est-ce qui le fait exactement, parce que là vous venez d'évoquer un beau-père, on imagine un deuxième mariage par exemple, il y a plusieurs sens possibles à cette notion.
La loi, elle est tout de même là. Alors, elle est là pour interdire, bien évidemment, mais elle est aussi là pour autoriser et pour protéger. C'est quand même sa fonction première. Donc, la famille, c'est une enveloppe protectrice pour les enfants, pour que les enfants puissent grandir, s'épanouir et être élevés. Et cette famille doit être, cette famille qui est au fond un rouage de la société, qui est cette cellule qui va répercuter les lois et les valeurs de la société à laquelle elle participe. Il faut qu'elle soit protégée par la loi. Et il faut que tous les protagonistes qui participent à cette famille soient protégés par la loi. Et aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé par rapport à cette famille traditionnelle, comme dirait la manif pour tous, un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins, ce qui a beaucoup changé, c'est que justement, il y a parfois beaucoup plus qu'un père et une mère pour faire famille. Parfois moins, il n'y en a qu'un seul, comme on le disait tout à l'heure, mais parfois beaucoup plus. Ouais. Donc ce qui a changé, c'est ce que j'aime appeler la coparentalité, c'est-à-dire le fait que plusieurs protagonistes, réels ou imaginaires, participent au fait qu'un enfant est au monde. Alors, ils sont réels quand il y a des recompositions multiples, des beaux-parents, des belles-mères, etc., de tous les côtés, comme on le voit de plus en plus, mais ils existent aussi quand un homme a donné ses spermatozoïdes pour qu'un enfant puisse venir au monde, quand une femme a donné ses ovocytes, quand un embryon a été implanté dans le ventre d'une femme, etc. C'est-à-dire que et quand on a eu recours aux États-Unis à la gestation pour autrui, par exemple, toutes ces situations font que il y a plusieurs personnes qui ont fait qu'un enfant est au monde. Et c'est la même chose dans une situation d'adoption. C'est pas parce qu'il y a eu abandon et adoption d'un enfant que les parents dits biologiques n'existent plus. Ils existent incroyablement dans la dynamique de la famille.
Mais alors là, on va entrer vraiment dans aussi le cœur des changements contemporains, Serge Hefez. Et déjà, pour prolonger ce que vous venez de dire, on pourrait vous demander d'une manière générale quelles sont les limites du familial, c'est-à-dire au fond, où est-ce qu'on l'arrête ? Est-ce qu'un très bon ami de la famille, comme on dit, doit être reconnu comme membre de la famille ? Il y a des limites forcément, mais puisque vous avez évoqué des cas qui sont liés, par exemple, à la procréation médicalement assistée, est-ce qu'il n'y a pas quand même des distinctions à faire dans les mots et dans les mots, c'est-à-dire dans l'essentiel des choses. Par exemple, est-ce qu'on peut dire père biologique pour un donneur de sperme ou est-ce qu'il ne faut pas dire géniteur ou justement donneur ? Utiliser le même mot, père biologique, père juridique, est-ce que ça n'est pas brouiller les cartes ? Est-ce que cette question de la famille, quand on dit à un enfant, par exemple, tu as un père, mais tu as aussi... Alors, quelqu'un d'autre qui est intervenu dans ton histoire, dont il faut intégrer la place dans une histoire. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi distinguer le sens des mots et les mots qu'on emploie ?
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Un père, c'est un père. Un donneur, c'est un donneur. Et ça n'a rien à voir. Et que justement, pour mettre de l'ordre dans les choses, il faut bien les nommer. Je suis absolument d'accord avec vous. Donc, on a aussi tout un travail à faire par rapport à ça, parce que toutes les appellations sont en train de voler dans tous les sens à l'heure actuelle.
Je crois que c'est un enjeu majeur pour la société elle-même, pour laquelle ces distinctions sont fondamentales.
Mais pour que l'enfant puisse nommer aussi, justement, toutes ces personnes qui ont concouru à son engendrement. C'est au fait d'être au monde, on va dire, au fait qu'il soit là. Dans les situations d'adoption, par exemple, un enfant fait très rapidement la différence entre... C'est cet homme et cette femme à qui il doit la vie et qui l'ont mis au monde et qui l'ont donné à l'adoption, on va dire ça joliment dans le meilleur des cas, et ses parents qui sont ses vrais parents, qui l'élèvent depuis qu'il est né et qui le portent au monde. Ça peut créer des conflits à l'intérieur de lui et ça en crée souvent beaucoup au moment de l'adolescence, mais ce ne sont pas des conflits de place parce qu'il repère très facilement quelle est la place des uns et quelle est la place des autres. Donc aujourd'hui l'enjeu, c'est dans ces autres situations, justement, où il y a recours à une PMA, comment est-ce qu'on va aider les enfants à repérer les places singulières des uns et des autres ?
Donc ce que l'adoption, sans doute parce qu'elle a une histoire assez longue et qu'elle peut être racontée justement aussi individuellement, rendait possible, comment le raconter, le dire et l'encadrer aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler dans un instant, mais vous avez proposé pour jalonner cette discussion de brouiller un peu les voix et peut-être aussi d'y réfléchir à travers la musique qu'on va entendre maintenant grâce à vous, Serge Hefez.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser cette semaine avec les enfants qui entrent dans Matière à penser. Ce soir, notre discussion avec Serge Hefez, qui dirige le service de thérapie familiale à la Pitié-Salpêtrière, qui est spécialiste de la famille, qui a écrit ce livre La fabrique de la famille, mais aussi de Nouvel ordre sexuel. C'est aussi le titre d'un de vos livres, Serge Hefez. Et le chant que nous venons d'entendre, vous l'avez choisi aussi pour nous indiquer justement comment nos repères sexuels, familiaux, sont peut-être plus compliqués qu'on ne croit, mais en même temps, ils existent. artiste.
Absolument.
Et est-ce que vous pouvez dire un mot d'abord de la musique avant qu'on en revienne à la question de filiation et de famille?
Et on les invente et on les réinvente et on les met en chantier. Quelque chose devient plus confus dans la notion de famille et on a à l'expliciter. Quelque chose devient plus confus aussi dans les notions aussi simple que masculin et féminin. Mmh. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus intermédiaire, disons, entre ces deux pôles qui, selon Françoise Héritier, étaient les deux grands pôles de la pensée. Et une voix de haute contre, par exemple, eh bien, comme on vient d'entendre, ouais. Jacob Joseph Orlinski, qui est un haute contre absolument extraordinaire, eh bien, une voix de haute contre, elle pose ça, c'est-à-dire, c'est ni tout à fait un homme, ni tout à fait une femme. Mmh. C'est autre chose. C'est une autre dimension d'une extrême sensualité qui est vibrante, qui est extrêmement émouvante. Et c'est une autre dimension de la voix et peut-être de la personne, je ne sais pas.
En même temps, c'est aussi élaboré de façon culturelle. Les hautes contres, donc, on leur registre dans la musique, notamment baroque. Là, on vient d'entendre chez Vivaldi. Donc, ces voix qui sont en effet plus confuses que nos cadres qui semblent, comme ça, distinguer des catégories massives, elles sont aussi reconnues culturellement. Elles sont travaillées culturellement. Ce que l'on est en train de discuter aussi, Serge Effet, c'est qu'on ne passe pas forcément, quand on passe de l'enfant aux enfants au pluriel ou de la famille aux familles au pluriel, on ne passe pas forcément d'une identité stable à une confusion sans repère.
Tout à fait.
Il y a quand même des repères. Les familles, là, on va parler maintenant des enfants, de filiation. Les familles, même si elles sont plus complexes, vous en donniez une définition très précise, très encadrée. Des repères continuent d'exister.
Absolument. Et alors, si on pense, mettons-nous maintenant dans la tête de l'enfant et des enfants. Quelles sont les questions que se posent des enfants? C'est pourquoi est-ce que je suis là sur cette terre? Qu'est-ce qui fait que je suis venu au monde? C'est-à-dire, par quel désir je suis porté pour être là? Quel a été le désir qui a anticipé ma naissance et qui donne du sens à ma vie? C'est-à-dire, qui me donne une boussole pour me diriger dans mon existence. Et à côté de ça, il se pose des questions beaucoup plus prosaïques sur comment on fait les enfants. Voilà. Comment ça fonctionne tout ça, parce qu'il est très intéressé par le sexuel et par la sexualité, il est très chamboulé par ce qui se passe dans son corps, par les différents plaisirs, etc. Et donc, il doit être dans un cadre qui lui donne une certaine sécurité par rapport à ces questions et qui lui permet de répondre à ces questions.
Alors, il y a le cadre juridique, Serge Effet, sur lequel on va revenir. On va parler de la loi de bioéthique et des questions de filiation, de cette notion même de filiation. Est-ce qu'elle désigne l'engendrement biologique ou, au contraire, la reconnaissance par la loi et exclusivement l'un? Et aujourd'hui, il faut sans doute être très clair sur ces points. Mais puisque vous venez d'en parler, parmi les publications récentes auxquelles vous avez participé, vous avez fait la préface d'un que sais-je d'une juriste, Caroline Mécari, PMA et GPA au PUF, mais vous avez aussi participé à un livre pour enfants qui s'intitule justement « D'où je viens ». Alors, c'est une formulation enfantine, je ne suis pas sûr que les enfants le disent exactement comme ça. Le petit livre pour parler de toutes les familles chez Bayard Jeunesse. Alors, à la fois, on comprend bien qu'il faut se mettre dans la peau des enfants, si j'ose dire, Serge Effet, en même temps dans les controverses politiques aujourd'hui sur ces sujets. Il y a aussi cette idée, on brouille l'esprit des enfants. Certains ont peur, justement, quand on fait des livres pour enfants sur ces nouvelles formes de faire famille, qu'on complique les choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de projet? En quoi est-ce qu'ils peuvent nous aider, au contraire, à rassurer, à cadrer et à renforcer?
Vous savez, Frédéric Vampy, il y a une chose qui est sûre sur toutes ces années où j'ai reçu des familles avec des enfants en difficulté et en souffrance, c'est que ce qui fait souffrir les enfants, c'est les non-dits et les secrets. Mmh. Voilà. Mmh. Que quand un enfant sent, encore une fois, je suis pas pour la transparence absolue, je dis pas de tout dire, mais lorsque la vérité, la réalité est travestie vis-à-vis d'un enfant, c'est-à-dire que lorsqu'il est entouré de mensonges, et particulièrement de mensonges sur sa filiation et sur sa venue au monde et ce qui a précédé sa venue au monde, les enfants en souffrent toujours et ça crée toujours
de la pathologie
chez eux. Pendant des années, voire des siècles, on ne disait pas aux enfants qu'ils étaient adoptés, parce que l'adoption existe depuis toujours, pour ne pas les perturber, pour les protéger, pour ne pas troubler l'image qu'ils ont de leurs propres parents. Et alors je pourrais vous citer 1000 exemples, on va pas avoir le temps aujourd'hui.
On parlait même pas de la sexualité.
Oui, aussi, de toute façon, il y avait heureusement des cigognes et des choux qui permettaient aux enfants de venir au monde, donc ça simplifiait les choses. Mais et donc, les enfants sentaient qu'il y avait des distorsions dans ce qui était dit autour d'eux. Et donc, ils se sentaient coupables eux-mêmes de ces distorsions qu'ils percevaient chez leur entourage. Et donc, c'est tout tout le statut de la réalité qui était perturbé pour eux. Donc, bien évidemment, on est revenu très largement là-dessus aujourd'hui. On a dit, mais évidemment, surtout ne cachez jamais à un enfant qu'il a été adopté. Dites-le-lui le plus tôt possible avec les mots que vous avez trouvés. Mais on a fait la même chose avec les questions de dons et les questions de tiers d'honneur.
Déjà dans les familles hétérosexuelles, avant qu'on parle aujourd'hui de l'extension
évidemment.
Possible au
couple
de femmes.
Le don de sperme, d'abord le don de sperme, il existe aussi depuis bien plus longtemps qu'il a été organisé par les Sécos. Le don de sperme, c'était parfois des arrangements avec un ami de la famille ou dans le cabinet d'un médecin, avec un petit bricolage artisanal. C'est pas très compliqué de donner du sperme à une femme lorsque l'homme est stérile. Donc tout ça a été largement escamoté. Et on a reproduit, de par la loi et avec, la complicité des médecins, on a reproduit le même mode d'escamotage. C'est-à-dire, on a dit, on va soigner la stérilité,
l'infertilité
masculine en ni vu ni connu, comme dit Irène Théride, sur un coin de paillasse. Eh bien, on va donner un sperme fécondant à cet homme et on n'en parlera plus. C'est-à-dire que cet homme qui a donné son sperme, et donner du sperme, c'est pas comme donner un rein ou donner du sang, c'est donner un patrimoine génétique, c'est-à-dire c'est aussi s'inscrire dans une histoire et c'est aussi s'inscrire dans des fantasmes, disons, des origines. Donc cet homme, il est totalement escamoté et surtout on n'en parle pas.
Alors Serge Effez, il faut distinguer sans doute et il faudra y venir dans un instant deux choses, c'est-à-dire ce qu'on appelait le secret sur le mode de conception, faire semblant qu'il y a eu rapport sexuel entre les parents, cacher le recours aux techniques médicales, et puis l'anonymat du donneur qui lui est la seule chose que la loi imposait, finalement, jusqu'ici, en tout cas. Elle n'imposait pas le secret. Heureusement, depuis longtemps, les Sécos dont vous avez parlé, les centres qui permettent la procréation, qui encadrent en France la PMA, recommandent au contraire le discours, le récit.
Ah oui, mais c'est très récent.
Mais c'est récent.
C'est très récent. Pendant des
années... Donc le secret avant l'anonymat a été aussi un problème.
Oui, pendant des années, le secret était au contraire prescrit aux parents pour ne pas troubler l'enfant dans sa représentation. Il a fallu attendre que ces enfants-là aient 18 ans, grandissent et 20 ans et commencent à se poser des questions et dire mais de quel droit est-ce que vous escamotez une personne à qui je dois, il disait pas leur père, mais quelqu'un qui est quand même suffisamment important pour que je porte en lui son matériel génétique, pour que j'ai des entre guillemets, demi-frères et demi-sœurs génétiques autour de moi que je ne connais pas, de quel droit est-ce que vous avez opéré cet escamotage?
Alors, Serge Effez, justement, venons-en au cœur du sujet aussi, en un sens. Dans ce livre pour enfants, d'où je viens, le petit livre pour parler de toutes les familles, évidemment, ce sont les familles aussi permises par la loi, qui sont reconnues par la société, disons, dont on a parlé dans la première partie de l'émission. Qu'est-ce qui fait famille exactement? Qu'est-ce qui fait paternité, maternité? Est-ce qu'il ne faut pas distinguer? Vous disiez, il y a la filiation charnelle, il y a la filiation adoptive. Est-ce que par filiation, il ne faut pas entendre avant tout quand même quelque chose de juridique? Le biologique étant finalement d'un autre ordre. Encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas distinguer les registres?
Idéalement, oui, mais dans les faits, c'est pas tout à fait comme ça que ça se pose. Je dirais que être père et être mère, c'est un acte symbolique extrêmement fort, c'est un acte volontaire et c'est un acte de reconnaissance. Ça n'est jamais le biologique, le procréatif qui crée un père ou une mère. Et ça, on nous y tenons de plus en plus dans nos sociétés où l'enfant a une place qui est de plus en plus importante, doit être protégé et doit être porté par ce désir d'un homme et une femme, ou d'un homme ou une femme, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe, mais qu'il soit au monde. Et c'est aussi vrai pour la mère que pour le père, puisque on voit qu'une femme peut accoucher d'un enfant, mais qu'elle peut refuser de devenir la mère de cet enfant en accouchant sous X. Elle a tout à fait cette possibilité.
Des formes d'abandon qui sont reconnues ou de transmission. Mais alors, justement, avant que vous alliez plus loin, Serge Effez, on pourrait même dire, il y a un fait biologique qui est la procréation, mais il y a aussi un fait juridique. On est un apostrophe père ou mère que si la loi nous le reconnaît.
Alors, pas tout à fait non plus. Ouais, parce que, regardez comment les choses se passent. Donc, on est soit parent, on l'a dit, par adoption, donc là, les choses sont claires, c'est-à-dire que c'est un vrai acte volontaire, soit, selon l'article 7, par
Du code de la famille.
Du code de la famille, on va dire, par procréation, sans que ce soit très très bien défini. Alors, la mère, c'est celle qui accouche. Donc, si elle n'accouche pas sous X, elle est la mère de cet enfant. De par la loi, elle ne peut pas s'en défaire, sauf si elle décide d'abandonner l'enfant plus tard. Mais enfin, elle est donc la mère juridique de cet enfant. Et pour le père, la situation est plus complexe. Soit il est marié avec cette femme et il devient automatiquement, sans déclaration, le père de cet enfant, parce qu'il y a présomption de paternité, c'est-à-dire qu'il y a présomption du fait qu'il a engendré charnellement cet enfant et que c'est ce qu'il fait père. Soit ils ne sont pas mariés et un homme va dire « je suis le père de cet enfant », acte hautement symbolique.
Le dire, c'est-à-dire aussi le déclarer.
Le déclarer auprès de l'État civil. Mais cette déclaration peut être, par la suite, mise en faute par la réalité biologique. C'est-à-dire que ce père qui s'est déterminé comme étant le père de cet enfant peut être destitué de sa place de père sur un simple test génétique fait par l'enfant, fait par son épouse, fait par le voisin, peu importe. Mais n'importe qui peut dire ce père, cet homme, il n'est pas le père de cet enfant.
Il a menti, au fond, parce qu'il a prétendu
il a été trompé, ou il ne savait pas.
Donc c'est quand même, donc, ce que vous êtes en train de souligner, Serge Effès, c'est qu'il y a quand même, finalement, en tout cas dans le droit jusqu'ici, puisqu'au fond on assiste à la disjonction un peu quand même de ces registres, il y a quand même un lien du biologique et du juridique.
Ah,
il y a une présomption biologique de parentalité.
De paternité et de maternité. Alors l'accouchement, évidemment, là, il y a peu de... Sauf maintenant qu'il y a des mères porteuses et des dons d'ovocytes, il peut y avoir trois femmes qui ont concouru à l'engendrement d'un enfant. Il n'en demeure pas moins que, de par la loi, la femme qui accouche, c'est la mère de l'enfant. Mais cette présomption de paternité, c'est une présomption charnelle. Et c'est très important de voir que, encore une fois, elle peut être défaite à tout moment par la preuve charnelle. Souvenez-vous de Yves Montand qu'on a déterré de sa tombe pour prouver ou pas qu'il était le père de cet enfant.
Mais Serge Effès, il y avait un lien très fort, mais il y avait quand même une distinction, c'est-à-dire même l'accouchement et la maternité, la prison, étaient peut-être inséparables en fait, mais étaient dissociables en principe, c'est-à-dire on pouvait quand même, et on est obligé de dire, la mère est celle qui accouche, c'est-à-dire qu'il faut que ce lien soit sanctionné par la loi, et c'est quand même pas absolument identique en tant que tel.
Oui, enfin, je sais pas si on ne joue pas un petit peu sur les mots. C'est-à-dire que la loi reconnaît l'importance du lien charnel. Encore une fois, avec la mère comme avec le père. Mmh. Et que, on voit bien aujourd'hui que c'est finalement, ça se retourne un petit peu contre la domination masculine traditionnelle. C'est-à-dire que les pauvres femmes qui étaient obligées, quand elles avaient été engrossées hors mariage, de subir toute la vie l'opprobre lié à cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a de plus en plus de pères qui sont acculés à reconnaître des paternités à laquelle ils ne s'attendaient pas. Mmh. Parce qu'ils avaient eu une relation sexuelle ou deux ou plusieurs avec une...
Donc les femmes savent se servir aussi du biologique.
Absolument. Et de la loi. C'est-à-dire qu'ils sont traînés devant un tribunal pour être obligé de se reconnaître comme étant le père d'un enfant.
Mais alors j'insistais un peu lourdement, Serge Effès, parce qu'il y a aussi quand même aujourd'hui la nécessité justement de, par les techniques médicales, de renforcer la dissociation, la disjonction, pour distinguer le géniteur et le père que reconnaît la loi, qui s'occupe aussi de l'enfant par ses soins, par l'éducation.
Tout à fait.
On est bien obligé de dire, celui qui est père, c'est celui de la filiation juridique et l'engendrement biologique. La contribution à l'engendrement biologique ne donne pas le titre de père, même s'il y a part à une histoire.
Absolument. Et je pense qu'on va de plus en plus se diriger vers cela. Alors, on en est encore loin aujourd'hui, mais la question se pose très concrètement sur la façon d'établir une filiation lorsqu'il y a eu recours à un tiers d'honneur. C'est-à-dire qu'on est là dans une situation à trois, que ce soit un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, peu importe, il y a un tiers qui est le donneur de gamètes, ou une tierce qui est la donneuse d'ovocytes.
Oui, laissant de côté la GPA dont on n'a pas le temps de parler.
Oui, la GPA, bon, elle est interdite, on va dire que ça n'existe pas. Donc on le laisse de côté. Mais dans ces situations-là, on n'est ni tout à fait dans l'engendrement charnel, article 7, ni dans la situation, tout à fait dans la situation d'adoption, bien article 8. On est, et c'est pour ça que, avec mes amis, si je peux dire, on est en train d'essayer de défendre un article 7 bis qui prendrait en compte la spécificité de ce mode de filiation. Et ce mode de filiation, c'est le mode de filiation avec tiers d'honneur, c'est-à-dire, sur quoi il va se baser? Il s'agit pas de marquer sur l'état civil de l'enfant, attention, regardez, cet enfant, il est né avec un don de sperme. Il s'agit, au contraire, de reconnaître la volonté de deux parents de devenir les parents d'un enfant. C'est-à-dire d'anticiper la naissance et de faire une reconnaissance anticipée de cet enfant en disant « nous sommes les parents de cet enfant ». Que ce soit deux femmes, un homme et une femme ou une femme seule. Alors évidemment, lorsqu'un homme et une femme vont avoir recours à la déclaration anticipée, ça signifiera implicitement qu'ils ont eu recours à un tiers, puisqu'ils n'y sont pas obligés. Mais ça n'est pas ça la question. La question, c'est de rendre justement la filiation comme étant un acte symbolique volontaire.
Une intention qui devient une responsabilité, qui devient reconnue.
Alors,
un engagement. Il y a deux positions, Serge Hefez. Il y a celle qui dit qu'il faut un mode de reconnaissance spécifique pour ces filiations-là. Mmh. Et puis celle qui dit, au contraire, qu'il faut unifier toutes les filiations sous un seul et même mode de reconnaissance juridique. Absolument. C'est ça aussi qui va renforcer, la deuxième mère dans le cas de couple de femmes, le père par rapport au donneur dans le cas d'un couple hétérosexuel. Mmh. Vous assumez plutôt l'idée d'une spécificité non discriminante, mais au contraire, mais quand même d'une spécificité en maintenant le cadre par ailleurs de la filiation charnelle et ce lien entre le charnel et le juridique d'un côté et cette dissociation, mais qui ne vaut pas discrimination de l'autre.
Absolument.
Oui,
mais parce que je pense que c'est trop tôt pour toucher à la filiation charnelle à proprement dire, qui est quand même l'architecture de notre pensée et de notre société. Donc, idéalement, on pourrait transformer tout processus de filiation en un processus volontaire, c'est-à-dire que un homme et une femme se portent responsable d'un enfant. Mais je pense qu'on est encore dans la science-fiction. Mais dans ces cas, justement, de tiers d'honneur, eh bien, on voit bien que ça met la famille en tension parce qu'il faut la penser différemment. Mmh. Il faut penser différemment ce qu'est la filiation. Cet enfant, il va être l'enfant de deux parents, incontestablement, et en même temps, il y aura eu recours à un tiers pour que cet enfant soit au monde. C'est aussi simple que ça.
Donc pour vous, les choses sont claires. Si la loi reconnaît le rôle de ce tiers, mais ne les confond pas avec les parents reconnus, justement.
Oui, au contraire. Il protège même et le tiers et les parents, puisque
protège la distinction.
Mais oui, parce que ce tiers ne peut absolument pas établir de filiation. Mm-hmm. Il ne pourrait pas un jour se réveiller en disant « je suis le père de cet enfant ».
C'est très important de le rappeler.
Il n'a donc aucun droit. Et ce père qui n'est pas le parent père, biologique de l'enfant, mais qui est néanmoins son père, ne peut pas plus.
C'est lui qui est vraiment
père. Oui, c'est lui qui est vraiment père, mais il ne peut pas non plus un jour dire « attendez, je fais un test génétique, regardez, c'est pas mon enfant, j'en veux plus ». Non, au contraire, dans la déclaration anticipée, il se porte responsable de l'enfant.
Et pour vous, Serge Hefez, le temps est passé très très vite. Ce cadre juridique, c'est ce qui permet aussi aux enfants, au pluriel, quel que soit leur mode de procréation, venu au monde, d'être tous des enfants reconnus par la société.
Avec une famille qui a une validité de famille en tant que telle. Alors là, maintenant, les familles homoparentales, elles ont une reconnaissance. Les familles qui ont recours à un tiers d'honneur, elles ont aussi une reconnaissance dans laquelle l'enfant peut se situer comme étant un mode de faire famille des sociétés et non pas un sujet des petits secrets qu'on va confier ou pas avec les parents qui savent pas très bien comment l'expliquer, comment en parler, etc. Si tout ça est soutenu par un cadre, eh bien, ça prend une autre dimension.
Et pour vous, être enfant, c'est être enfant dans une famille?
Toujours dans une famille. Malheureusement, on sait que certains enfants n'ont pas de famille. On sait qu'en général, ils vont souffrir toute leur vie, et que c'est un grand malheur. Et que je ne crois pas qu'on ait trouvé mieux que la famille, quelle que soit sa forme, pour élever un enfant.
Merci infiniment, Serge Hefez.
Merci beaucoup.
Matière à penser, cette semaine, les enfants. Ce soir, avec Serge Hefez, avec, grâce aussi à Delphine Baudet, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain pour notre deuxième conversation avec et autour des enfants. À demain.